L'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes dans les studios de Radio Taf à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées, les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au mouvement sioniste après Herzl. Bonjour Michael.
Shalom.
Michael, Herzl est mort, le cœur brisé, désavoué, incompris. Et pourtant, le congrès sioniste va mettre 2 ans avant de lui trouver un successeur. Pourquoi ?
D'abord, la mort de Herzl a été un véritable choc pour les membres du mouvement sioniste, de l'organisation sioniste mondiale. Et on a même pensé à cette époque, suite au débat sur l'Ouganda, mais aussi suite à la mort subite de Herzl, qui est mort jeune à 44 ans, que le mouvement sioniste n'allait pas survivre en fait à Herzl et qu'il allait tout simplement éclater, se démanteler. Et donc la priorité des membres du Congrès sioniste, ça a été de maintenir l'existence du mouvement sioniste. Et donc face aux divisions qui existaient au sein du mouvement sioniste, notamment après ce débat sur l'Ouganda, mais aussi sur d'autres questions, notamment sur les implantations, le développement des kibboutzim et d'autres infrastructures qui existaient déjà en Eretz Israël, on a préféré dans un premier temps ne pas tout de suite désigner un président, ou en tout cas élire un président, mais aussi parce que le successeur naturel, qui était, disons, l'ami de Herzl, l'écrivain Max Nordo, à qui on avait proposé de succéder à Herzl, avait tout simplement refusé.
Ah bon, pourquoi ?
Alors, il avait refusé pour 2 raisons. La première, c'est que, d'après ce qu'il dit dans ses mémoires, c'est que, étant marié à une non-juive, il ne se sentait pas légitime pour être le président de cette organisation sioniste mondiale. Et la deuxième, c'est, je pense que, fondamentalement, il était d'accord avec le projet de l'Ouganda. Et donc, il ne pensait pas pouvoir exercer ses fonctions de président et, disons, pouvoir gérer ce mouvement. Et donc, pendant les 2 années qui ont suivi la mort de Herzl, c'est-à-dire il est mort en 1904 jusqu'en 1907, il n'y a pas eu de président. Il y avait un comité exécutif qui dirigeait le mouvement sioniste et qui, disons, gérait les affaires courantes. Mais on a décidé seulement en 1905, dans le congrès qui a suivi la mort d'Herzl, de ne pas élire de président. Et le président qui a succédé à Herzl n'a été élu que lors du 8e congrès, c'est-à-dire en 1907. À l'époque, c'était donc un des vice-présidents, c'était David Wolfson, qui a succédé, qui a été élu à la tête du mouvement sioniste. Alors, il faut bien comprendre qu'il y avait des divergences très profondes entre, je dirais, 2 tendances très très nettes au sein du mouvement sioniste.
Quelles étaient-elles ?
Alors, la première tendance, c'était la tendance que représentait Herzl, et donc Nordau aussi, Wolfson, mais dans une moindre mesure, c'est ce qu'on appelle le sionisme politique.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, le sionisme politique, c'est une vision du mouvement sioniste qui considère que ce mouvement a pour but essentiel la création d'un État, c'est-à-dire la création d'un outil qui s'appelle l'État, qui aurait le droit sur une terre et qui donc serait souverain sur cette terre, que cette terre serait reconnue par des accords internationaux, par des grandes puissances également. Et que donc le but premier du sionisme, c'était la création de cet État. Cette vision politique, c'est, je dirais, une vision qui correspond à celle des grands mouvements nationaux de la fin du XIXe siècle. D'une certaine façon, Herzl était l'héritier de cette tradition nationale qui disait, au fond, un peuple, un État, une nation, un État, une culture, une langue. Et donc, quelque part, c'était la réalisation d'un rêve qui était purement politique. Les aspects pratiques, sociaux, économiques de la création d'un État étaient placés au second plan.
C'est étonnant, parce que ça paraît principal.
Non, c'est une vision, je crois, qui correspond à ce qu'était Herzl. Herzl était plutôt un homme qui vivait dans le symbole. Pour lui, ce qui était très important, c'était l'idée qu'on reconnaisse le droit des Juifs à un État. Et donc, c'était un acte politique. Mmh. C'est pour ça que, dans toute sa carrière politique, pendant qu'il dirigeait le mouvement sioniste, il a rencontré les grands de ce monde, à l'époque. Le pape, le sultan, l'empereur allemand, et donc il a rencontré les représentants du tsar en Russie. Donc pour lui, c'était quelque chose qui devait se gérer au niveau politique. L'aspect de construction et d'installation sur la terre et de retour physique, pratique, matériel sur la terre d'Israël n'était pas sa priorité, même si, évidemment, il ne s'y opposait pas et qu'il a créé le Fonds national juif, le Keren Kayemet l'Israël, le Keren Hayesod, la Banque Léumi, qui étaient au fond des instruments techniques qui allaient permettre ce retour. Il ne s'y est pas opposé, mais sur le plan de l'ordre de ses priorités, était tout à fait clair. Pour lui, le sionisme était avant tout un mouvement qui avait pour but de redonner aux Juifs une fierté nationale.
Et donc
les Juifs se sentent, aient ce sens de l'honneur et qu'ils retrouvent cette position, d'un peuple qui a une souveraineté sur une terre. Donc ça, c'était vraiment une position, herzlienne, si on peut dire, qui était partagée par Dordo, qui a été ensuite probablement un des héritiers de cette vision de Herzl, ça a été Jabotinsky, qui était à peu près dans cette idée, d'abord il faut créer un État, d'abord il faut le pouvoir, d'abord il faut avoir un État reconnu avec des frontières, avec un État de droit, et ensuite on peut voir les aspects de construction d'une société. Donc, à côté de ce sionisme politique, s'est créé, dès les débuts du mouvement sioniste, un mouvement, ou une tendance, un courant, qu'on peut désigner comme le sionisme pratique. Qui donc considérait que l'État serait, au fond, le résultat d'une construction, ou de la construction ou reconstruction d'une société juive en terre d'Israël. Et donc, il fallait d'abord commencer par le début, à savoir créer des infrastructures, s'installer physiquement sur la terre d'Israël, se réinstaller, retourner sur cette terre, la défricher, la mettre en valeur, la rendre, propice à la création d'un État. Parce que s'il n'y a pas de Juifs sur la terre et s'il n'y a pas une présence juive active et une activité sociale, économique, cet État sera vide. Et donc, cette volonté, si vous voulez, de donner du contenu est extrêmement importante pour la vision des sionistes pratiques. Il s'agissait d'abord de mettre en valeur la terre, de ramener des Juifs au maximum, au plus grand nombre sur cette terre, de créer peut-être même ce qu'ils appelaient en son temps une majorité juive sur la terre d'Israël, ce qui permettrait ensuite à l'État, de tomber comme un fruit mûr d'une certaine façon. Donc ces deux visions du sionisme se sont affrontées. Et donc ce qui a fait que Herzl a, privilégié la proposition de l'Ouganda, c'est qu'il était dans une urgence politique. Les Juifs sont en danger, donc il faut trouver un asile, donc il faut trouver un refuge. Et les aspects matériels et pratiques étaient moins importants pour lui. Cela dit, après la mort de Herzl, on se rend compte que petit à petit, le sionisme politique va laisser la place au sionisme pratique qui va prendre le dessus. Bon, après, nous aurons une autre tendance sur laquelle nous reviendrons, qui était ce qu'on appelle le sionisme synthétique, qui a fait une espèce de synthèse entre ces deux visions. Mais petit à petit, après Herzl, il n'y a pas vraiment de leader politique qui a la carrure de Herzl, qui a le charisme de Herzl et qui peut être finalement le représentant, le roi des Juifs, on dirait. Et donc, on élit un président qui est une figure du sionisme et qui n'est pas cette figure emblématique que pouvait être Herzl, qui est une figure importante du sionisme, David Wolfson, mais qui était, un homme d'appareil.
Et lui, pour le coup, il était plus vers le sionisme politique ou le sionisme pratique ?
Alors lui, d'une certaine façon, était dans la ligne de Herzl, mais petit à petit, il s'en est écarté. C'est-à-dire qu'au cours de sa présidence, il s'est rendu compte que finalement, les principaux militants, ceux qui étaient, je dirais, les membres les plus actifs du mouvement sioniste, étaient les sionistes pratiques. Et c'est vrai que c'est eux qui faisaient, comme on dit aujourd'hui, c'est eux qui faisaient le plus de bruit. Mmh. Ils s'installaient en Eretz Israël. On a parlé déjà de la seconde Aliyah. Et donc, lorsqu'on s'installe en Eretz Israël, leur voix se faisait entendre de plus en plus. Et également, ils réclamaient des moyens. Et donc, ces exigences, ou je dirais cet activisme des sionismes pratiques, a finalement influencé, je dirais, la présidence de David Wolfson, qui a présidé le mouvement sioniste de 1907 à 1911.
Et qui l'a remplacé ?
Alors, il a été remplacé en 1911 par Otto Warburg, qui en fait n'a été élu qu'en 1912, même si Wolfson a terminé son mandat en 1911. En 1912, donc, Otto Warburg va prendre sa place. Il restera à la tête du mouvement sioniste jusqu'en 1920. Otto Warburg était clairement dans ce qu'on appelle la tendance du sionisme pratique.
D'accord.
C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience justement dans la mise en pratique de certaines, de certaines modalités d'installation. Et donc, il a énormément favorisé l'installation, la création de kibboutzim, la création de nouvelles infrastructures. Et notamment, il a eu à gérer une situation assez difficile pour les Juifs qui vivaient en Palestine de l'époque, qui a été la Première Guerre mondiale et sous l'occupation, enfin sous la domination ottomane à cette époque.
D'accord. Nous allons faire une petite pause musicale. Et Michael, tu vas nous dire ensuite quelle est cette musique.
אך אין מקום כמו ארץ ישראל וכמו גלויות של נוף יפות תמונות בזיכרוני עפות כמו בעד עדשה של מצלמה בתרמילי אותן אסע לכל מקום בכל מסע קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה שלום לך ארץ נהדרת עבדך הדל נושא לך שיר מזמור גם אם לעתים נודד אני על דרך מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור צריחי המגדלים בירושלים בסמטאות השוק הצבעוני גגות הרעפים של גבעתיים אני בתים מבעד חלונים את האוויר בתל אביב את סבתי ואת סבי את החלה ואת נרות שבת את ים המלח מול אדום ואשת לוט צופה לסדום ואת הקיץ אורח האלת שלום לך ארץ נהדרת עבדך דל נושא לך שיר מזמור גם אם לעתים נודד אני על דרך מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור מימיה הכחולים של הכנרת והרקיע התואם מעט והרגשת הבית המוכרת בתוך אורכי זורמת כמו חשמל הרי גליל והשומרון הפרדסים שבשרון וילדים בגן המושבה את הכרמל ואת הים אחד אחד ואת כולם תמיד קורצים אומרים ברוך הבא שלום לך ארץ נהדרת עבדך דל נושא לך שיר מזמור גם אם לעתים נודד אני על דרך מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור
très jolie chanson. Michael, peux-tu nous dire quelle est-elle ?
Ah, c'est une chanson qui dit Shalom lach eretz nehederet, dire bonjour, merveilleuse terre. Mm-hmm. Quoi. C'est un appel, évidemment, à l'amour de la terre. Chanson chantée par celui qui a été à un certain moment un peu le chanteur national ici, Yoram Gaon, très connu.
Alors, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la politique, entre guillemets, de David Wolfson et celle de Otto Warburg.
Bon, il y avait plusieurs différences, mais avant tout, la question qui s'était posée tout de suite après le problème de l'Ouganda et l'élection de Wolfson, c'était la question territoriale. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il fallait revenir sur cette discussion, sur ce débat, qui n'avait pas, même si Herzl avait été mis en minorité, ça n'avait pas vraiment été tranché pour ne pas humilier Herzl. On avait décidé de reporter cette décision, etc. Mmh. Et donc, on a finalement décidé de ne jamais parler de ça.
Ça n'a jamais été...
Alors, on a décidé, en 1905, comme ça, au moment, lors d'un congrès, de ce congrès où on n'a pas élu de président. Mmh. Non seulement on n'a pas élu de président, mais on a décidé de ne pas parler de la question territoriale. C'est-à-dire de savoir où allait se créer cet État d'Israël ou cet État juif. Et donc, on n'a pas parlé ni de frontières, ni de Palestine, ni d'Ouganda, ni d'ailleurs.
C'est incroyable, ça va
donc
vraiment incroyable.
On a finalement... Alors, la raison, elle est, je dirais, politique, mais au sens politicien. À savoir qu'on n'a pas voulu désunir ce mouvement. On a voulu garder tout le monde. Et donc, pour éviter une motion qui aurait divisé les troupes et peut-être provoqué le départ et... On le craignait un démantèlement ou une dislocation du mouvement sioniste, on a décidé de laisser de côté un sujet qui fâche. Mmh. Mais un sujet qui est quand même au centre
essentiel,
du sionisme.
Oui.
C'est un sujet essentiel. Mais curieusement, tout le monde s'en est accommodé.
D'accord.
Et c'est là, peut-être, je dirais, réussite de Wolfson. Wolfson était un homme de compromis. C'était un homme qui réussissait justement à mettre des gens qui étaient... foncièrement en désaccord, les mettre ensemble et à trouver entre eux une espèce de modus vivendi. Mmh. Et donc, sa tactique, si je peux dire, ou sa tactique politicienne, c'était laissons de côté les sujets qui fâchent. Et donc, pendant 4 ans, il a réussi à ne pas entrer dans tous ces débats qui, justement, auraient pu faire imploser le mouvement sioniste. Mais bien entendu, il s'est rendu compte aussi du changement et de l'importance qu'avaient eu ce qu'on appelait les Olim de la deuxième Aliyah. Et il s'est tout de suite rendu compte, et ça il l'a parfaitement compris, et il l'a même encouragé, c'est-à-dire il s'est rendu compte que le futur leadership du mouvement sioniste était parmi ces gens-là. Mmh. Et que les futurs dirigeants, et on l'a vu avec Ben Gurion, mais pas seulement Ben Gurion, que de nombreux... personnages, personnalités qui vont être au centre du mouvement sioniste dans les années cruciales jusqu'à la création de l'État d'Israël, se trouvaient parmi ce groupe qui était, on l'a vu, pas très nombreux, mm-hmm. quelques milliers de gens, qui étaient des gens militants, engagés, je dirais, avec des idéologies extrêmement, imprégnées d'idéologies. Et donc, il s'est rendu compte que le poids du mouvement sioniste allait passer de la diaspora, puisque jusqu'à présent, le mouvement sioniste était un mouvement qui se développait en diaspora, et notamment en Europe.
En Europe, oui.
Et que le poids allait passer du côté d'Eretz Israël.
D'accord.
Et que donc, ce qui était naturel sur le plan du sionisme, ça, il l'a compris. Non seulement il ne s'y est pas empêché, mais il a, augmenté les investissements du mouvement sioniste en terre d'Israël. Et donc, il a encouragé tous ces mouvements de la Aliyah Shnia.
Cette bascule, elle s'est faite comment et quand surtout ?
Alors, elle s'est faite surtout donc dans la période à partir de 1907, mais surtout par la création d'institutions sur le terrain, et notamment d'une institution qui s'appelait Amisrad Eretz Israeli. On pourrait appeler ça le ministère d'Eretz Israël, qui était sur le terrain et qui donc était finalement... une espèce d'antenne du mouvement sioniste, mais qui pouvait prendre toutes les décisions sur le terrain.
D'accord.
Et donc, ce Misrad Eretz Israeli est devenu, au fond, peut-être le fondement, la base de ce qu'allait devenir, après le Vada Yishuv et l'agence juive, c'est-à-dire, au fond, l'institution centrale. Je dirais aujourd'hui, c'est un peu comme, comme si c'était le bureau du Premier ministre en Israël. C'est devenu une organisation centrale, autonome, indépendante, et qui recevait les moyens du mouvement sioniste. Donc petit à petit, dans la bascule, comme vous dites, ce Misrad Eretz Israeli a pris une influence de plus en plus grande par rapport à la direction du mouvement sioniste à Londres et en Europe.
Est-ce que là, cette fameuse direction, elle s'est un jour délocalisée ?
Non.
D'accord.
Elle s'est délocalisée seulement après, on en reparlera au moment du mandat britannique et surtout au cours du mandat britannique, petit à petit, la direction du mouvement sioniste est passée en terre d'Israël, en terre d'Israël. Mais disons, avant, on se trouve déjà dans une dynamique, si vous voulez, où le poids principal va passer de la diaspora en Eretz Israël. Ce sont eux, les activistes sur le terrain, qui vont, avoir le plus d'influence sur l'avenir du mouvement sioniste. Otto Warburg, qui est élu en 1912, et lui, carrément, appartient carrément au mouvement de sionisme pratique. Et donc, pour lui, il s'agit de renforcer la présence juive sur le terrain en Palestine. Et donc, créer des kibboutzim, des mouchavim, implanter le maximum de gens sur place et surtout faire face à ce qui a représenté l'énorme difficulté. C'était les relations entre ces juifs qui vivaient en Palestine et l'Empire ottoman, qui était la puissance dominante et qui donc se préparait à la guerre. Et évidemment, le mouvement sioniste qui se trouvait à l'époque en Angleterre et aussi dans d'autres villes européennes, petit à petit, est tombé dans le problème des alliances entre les grandes puissances en Europe.
Alors,
donc il y a eu un choix qui a dû être fait. Warburg a eu avant tout une influence, je dirais, sur quelque chose qui a été défini à l'époque, qui est un concept important dans le sionisme, ça s'appelle « Avodat Ahové ». Alors, je traduirais ça par le travail au présent ou le travail du présent. Autrement dit, la première période, celle de Herzl, a été une période de visionnaire, c'est-à-dire une période où on a essayé de voir l'avenir, de voir, de marquer l'histoire à long terme. Et puis après, on est passé à ce qu'on appelle le travail au présent, c'est-à-dire le travail au quotidien, le travail de construction, le travail d'occupation de la terre, le travail de la terre, le retour à l'agriculture, le développement d'écoles, la création de tout ce qui peut constituer les infrastructures d'une nouvelle société et aussi les relations avec ceux qui se trouvaient en Palestine, y compris les juifs qui étaient là, qui étaient pour la plupart des religieux, issus de communautés très religieuses, souvent séfarades d'ailleurs, mais qui avaient une autre façon de vivre en terre d'Israël, et qui, quand ils ont vu arriver ces jeunes kibboutznikim et ces femmes en shorts, ils ont été un petit peu choqués, ils ne comprenaient pas exactement quelles étaient leurs relations avec ces gens-là. Et puis aussi les bédouins arabes qui vivaient sur le terrain. Donc tout ça, il a fallu gérer ce travail au présent. Et donc Otto Warburg est quelqu'un qui a, n'a pas laissé un souvenir comme idéologue ou comme quelqu'un qui a amené de grandes idées, mais il a facilité ce travail du présent.
D'accord.
Et donc, il a donné les moyens, il a trouvé, grâce à ses relations, énormément de trouver les moyens de développer cette communauté juive ou ces Yishuvim qui se trouvaient en terre d'Israël. Alors, la première, grande crise du mouvement sioniste en terre d'Israël, ça va être la Première Guerre mondiale.
De quelle manière ?
Eh bien, dès le début des hostilités de la Première Guerre mondiale, on comprend qu'il va y avoir des alliances entre les grandes puissances, des puissances coloniales. C'est le début de ce qu'on appelle une espèce de course impérialiste entre les grandes puissances. Et donc, il y a une alliance et le mouvement sioniste se trouve finalement devant un vrai dilemme qui est de choisir son camp. Parce que on comprend bien au terme de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman sera probablement démantelé Et donc, il y aura une répartition du gâteau, si je peux dire, entre les grandes puissances. Et donc là, les Juifs sont devant un vrai dilemme, parce qu'une grande partie des Juifs vivent en Allemagne. Mmh. Donc, ils sont citoyens allemands ou autrichiens, donc fidèles. Ce sont des citoyens fidèles. Et puis, d'un autre côté, la direction du mouvement sioniste se trouve à Londres. Donc, il va falloir faire un choix.
Et quel choix est fait ?
Eh bien, le sionisme va choisir l'Angleterre, va choisir le camp de, disons, de l'alliance franco-anglaise. Alors, avec les Russes, c'est un peu compliqué, parce que la majeure partie des Juifs se trouve quand même en Russie et en Pologne. Et donc là, il y a un changement important qui va être la révolution d'octobre, pendant la guerre. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Et les Juifs doivent choisir. Seulement, choisir l'Angleterre, où se trouvait la direction du mouvement sioniste, c'était mettre en danger les Juifs qui vivaient en Palestine sous la domination ottomane, puisque l'Empire ottoman était allié avec l'Allemagne.
Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux ?
Et donc, pour eux, ça a été une période extrêmement difficile, parce que dans un premier temps, l'Empire ottoman a considéré que, même si les Juifs avaient dit « nous sommes neutres », les Juifs de Palestine avaient dit « nous sommes neutres, nous ne prenons pas parti », ils ont considéré que le mouvement sioniste, s'étant, ayant fait allégeance, je dirais, à l'alliance franco-britannique,
c'était des traîtres.
Ils étaient considérés comme des traîtres. Et donc, la plupart des dirigeants sionistes de la seconde alia ont été expulsés.
Expulsés,
et ne sont restés en Palestine que des Juifs qui n'avaient pas de responsabilité, je dirais, politique. Tous les dirigeants qui avaient des responsabilités dans le mouvement sioniste
ont été expulsés.
Donc, certains sont partis en Égypte, donc sont partis en Europe. Et donc, l'Empire ottoman a, dès le départ, considéré que les Juifs de Palestine étaient un danger et pouvaient représenter une sorte de cinquième colonne.
D'accord.
Ce qui, de leur point de vue, n'était pas faux. On le verra, on le reviendra sur une affaire qui est l'affaire du réseau d'espionnage sioniste en faveur de l'Angleterre, qui s'appelait le réseau Nili. On y consacrera une émission parce que c'est un événement important de l'histoire du sionisme. Les sionistes ont choisi leur camp. Donc c'est extrêmement important du point de vue politique, parce que pendant toute cette période, les Juifs de Palestine vont être obligés, comme on dit, de mettre en veilleuse. Ils vont être obligés de se taire, ils ne peuvent pas développer ni d'industrie, ni de kibboutzim. Ils sont donc dans une situation extrêmement précaire, et beaucoup sont arrêtés, après libérés, certains ont été torturés. Donc il y a vraiment une relation extrêmement tendue, et une relation aussi de suspicion de l'Empire ottoman à l'égard des Juifs qui vivent en Palestine. Et ça va d'une certaine façon arrêter le développement, je dirais, de ce qu'on a appelé le travail au présent. Mmh. Donc, quelque part, le développement sur la terre d'Israël va s'arrêter pendant quelques années, en tout cas de 1914 jusqu'à 1917, date à laquelle les Anglais vont occuper la Palestine.
Et on rebascule sur un sionisme plus politique.
Le sionisme devient plus politique. Et donc, pendant la guerre, tout d'un coup, le poids repasse en diaspora. D'une certaine façon, c'est la direction du mouvement sioniste reprend la main, si on peut dire, et va essayer de trouver des accords politiques avec les grandes puissances pour éventuellement obtenir une reconnaissance du sionisme, une reconnaissance du droit des Juifs à un État après la guerre. Mais tout ça se fait dans un contexte à la fois de concurrence impérialiste et coloniale entre des États qui, d'un côté, sont alliés, la France et l'Angleterre, mais d'un autre côté, sont aussi en concurrence sur la répartition du Proche-Orient entre elles.
D'accord. Nous allons refaire une petite pause musicale.
בערב כחול, יפה מתמיד, יצאתי לחרש לכתוב מרגנית, ירח עגול, טייל בין אבים, וזרח בעיני אוהבים. הו מרגנית, הו פרח שלי קטן, הו אהבה שלי.
ביישנית החלום שלי חלום שלי שלי קטן או אהבה שלי ביישנית או חלום שלי חלום שלי בלבן טורו 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 בחור ובידו מרגנית וכמו בצילום כהב ישן הביט בי יפה וביישן או מרגנית או פרח שלי קטן או אהבה שלי ביישנית או חלום שלי חלום שלי בלבן הפרח קיבל נשיקה לי יש מרגנית ולא ידידיי השיר שניגנו לו שפתיי או מרגנית או פרח שלי קטן או אהבה שלי בשנית או חלום שלי חלום שלי בלבן שלי קטן או אהבה שלי ביישנית או חלום שלי חלום שלי בלבן
שלי חלום שלי בלבן
חלום שלי חלום שלי בלבן
מיכאל, quelle est cette chanson?
Cette chanson parle d'une marguerite blanche. D'accord. Et au fond, ce sont les rêves de la nature en Israël et c'est tout à fait cette idée de développer une terre qui sera une terre, je dirais, prospère. Et tout le rêve de ce travail du présent, c'est justement de créer les conditions d'une vie prospère et du développement de la nature en Israël, du retour à la terre. C'est assez compliqué parce que pour les sionistes pratiques, il s'agissait au fond de faire une véritable révolution. Révolution mentale, révolution sociale, révolution économique. Les Juifs avaient été éloignés pendant des années du travail de la terre. Mmh. Et d'une certaine façon, il faut absolument que renverser ce que les sionistes socialistes ont appelé par la suite la pyramide sociale. Et donc, le sionisme a été aussi une révolution économique et sociale pour ces juifs qui venaient de Russie, qui pour la plupart étaient des commerçants, profession libérale. Et donc, on a voulu vraiment faire une révolution des mentalités. Mm-hmm. Alors, plusieurs modèles dans l'idéologie de la LIHDR, on en avait parlé dans cette émission. Mais cette idéologie sur le terrain, il y a des difficultés. Le terrain est extrêmement difficile, il y a des maladies, il y a...
Il y a surtout des hommes qui n'ont aucune expérience de la terre.
Oui, oui, oui. Il y a surtout une nature qui n'est pas extrêmement amicale au départ. Donc il faut non seulement travailler la terre, mais aussi guérir les maladies, y compris les maladies des hommes, mais aussi les maladies de la nature sur le terrain. Il y a un manque d'eau, évidemment. Donc tout ça rend ce travail du présent extrêmement difficile, laborieux, mmh. et nécessite beaucoup de courage. Ce qu'avaient les hommes et femmes de la seconde Alia, on le sait. D'un autre côté, la guerre qui se déclenche en 1914 est une guerre qui va révolutionner les esprits et aussi, je dirais, la conception de la guerre.
De quelle manière ?
C'est la première guerre, d'abord mondiale. Une guerre extrêmement violente, avec des millions de morts. Et donc, des juifs qui sont tués des deux côtés. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des membres du mouvement sioniste qui vivent en Allemagne et qui se battent dans l'armée allemande, et vous avez des juifs qui vivent en France ou en Angleterre ou ailleurs et qui meurent dans les armées alliées. Mmh. Donc, c'est une guerre qui, dès le départ, est une guerre extrêmement cruelle, extrêmement coûteuse en hommes, et surtout qui montre qu'il y a un jeu des grandes puissances. Et c'est vraiment une guerre qui va donner aux grandes puissances toutes les cartes de ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique. Cette guerre, on le comprend dès le début, n'est pas seulement une guerre. On sait comment elle commence à Sarajevo avec l'assassinat du prince, mais ça va bien au-delà de ça. C'est une guerre, au fond, coloniale, pour des intérêts à la fois économiques, financiers, le pétrole. Et on comprend bien que le Proche-Orient va être un des enjeux de la guerre, et surtout des conséquences de la guerre.
Donc le mouvement sioniste comprend qu'il doit se positionner absolument.
Le mouvement sioniste comprend parfaitement, en tout cas ses dirigeants, qu'il y a une carte à jouer. Mmh. Il va falloir, sur cet échiquier politique ou géopolitique, il va falloir jouer, il va falloir avancer les pions, et il va falloir donc trouver, des alliés, mais aussi faire des propositions. Et on le comprend bien, les puissances coloniales ont des intérêts qui parfois sont convergents, mais aussi divergents. Mmh. La France et l'Angleterre sont alliés, mais sont ennemis ou adversaires sur le contrôle du Proche-Orient. Mmh. Ont des intérêts extrêmement opposés, et donc il va y avoir une vraie, lutte d'influence, une lutte impérialiste, on peut dire, entre la France et l'Angleterre sur l'avenir du Proche-Orient. Le mouvement sioniste essaye de prendre contact avec la France. Mmh. Il y a notamment des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères français. Mais la France, pour des raisons qui lui sont propres, est la protectrice d'abord des lieux saints.
Oui.
Donc la France, depuis 1516, avait obtenu la protection des lieux saints. Donc de Jérusalem, de l'Empire ottoman. Donc avait un accord, au fond, avec l'Empire ottoman sur la gestion des lieux saints.
Et de quelle manière c'est...
Et donc, depuis toujours, il y avait une délégation française et la responsabilité politique et la gestion des lieux saints étaient entre les mains de la France.
Mais comment ça va à l'encontre du mouvement sioniste ?
Alors, le mouvement... D'un côté, il y a donc... la France considère que ses intérêts propres sont d'abord, évidemment, le pétrole, mais ça c'est vrai pour les deux côtés, mais aussi les chrétiens, d'un côté. Donc, il va falloir défendre du côté des chrétiens. Mmh. Et donc, il décide de créer une alliance qui... de faire un accord avec les Britanniques sur la répartition du Proche-Orient dans lequel la Palestine ne leur revient pas.
D'accord.
Et donc, il décide de laisser tomber, au fond, les lieux saints. C'est ce qui va se passer. La France va perdre, au lendemain de la Première Guerre mondiale...
Mais décide de perdre.
Décide, mais c'est ce que Clémenceau dit à un moment, décide qu'il vaut mieux avoir le pétrole que que quelques églises à Jérusalem, ce qui est un calcul tout à fait cynique, mais surtout décide que la Syrie, l'Irak et le Liban vont être les zones ou les régions qui doivent revenir à la France.
D'accord.
Alors on voit très très bien que ce partage qui va être fait après la guerre entre les grandes puissances est à l'origine de beaucoup de conflits qui sont encore... aujourd'hui,
absolument.
Actuel, très actuel, parce qu'on répartit, on découpe tous ces territoires sans tenir compte de certaines réalités, à la fois l'existence de certaines ethnies, de certaines communautés, et donc on fait des alliances sur le terrain avec telle ou telle tribu ou tel ou tel groupe ethnique, ce qui va évidemment modifier radicalement le paysage géopolitique, disons, du Proche-Orient après la guerre. Et puis, les Britanniques font aussi des accords. Et les Britanniques comprennent bien que d'un côté, ils peuvent faire des accords avec les Arabes, ils peuvent faire aussi des accords avec les Juifs. Et donc, tout le monde promet un peu tout le monde à tout le monde.
D'accord.
Et vraiment, nous sommes dans une vraie, guerre d'intérêts. Mmh. Au-delà du conflit qui est extrêmement violent et coûteux en hommes et en, je dirais, également sur le plan économique. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a détruit le paysage humain de la France et de l'Allemagne. Mais au-delà de ça, il y a des intérêts. Et dans ces intérêts, le mouvement sioniste doit plus ou moins essayer de jouer sa carte. Alors il essaye, en prenant des contacts, avec les ministres des Affaires étrangères des deux côtés. Mm-hmm. Ils vont voir également les Allemands. Et donc essaye d'obtenir peut-être aussi certaines garanties des Allemands. Les Allemands disent, les Allemands sont plutôt pro-sionistes. C'est-à-dire que le pouvoir allemand, c'est-à-dire l'alliance, disons, ce qu'on appelle de l'axe entre l'Allemagne, l'Autriche, est plutôt favorable aux sionistes. Mm-hmm. Mais évidemment, il va perdre la guerre. Donc les sionistes comprennent qu'il faut avoir des garanties aussi des deux côtés. Alors, il vaut mieux être, en général, dans ces cas-là, du côté des gagnants. Déjà remarqué. Et le sionisme a quelque part, le mouvement sioniste en tout cas, a été présent à Londres et donc a eu la possibilité d'avoir, je dirais, l'oreille des Anglais. Et c'est la raison pour laquelle Otto Warburg, qui était allemand, bien entendu, va, en fait, même s'il reste le président du mouvement sioniste jusqu'en 1920, à partir de 1914, il va se mettre un petit peu en retrait parce qu'il comprend que sa personne n'est peut-être pas la meilleure, la meilleure carte pour le mouvement sioniste pour négocier d'éventuels accords ou d'éventuels accords avec le gouvernement britannique.
Et du coup, c'est Weizmann qui est à Londres
et du coup,
qui reprend le relais.
Weizmann qui va être de facto le vrai dirigeant du mouvement sioniste à partir de 1914, même s'il n'en est pas, à cette époque, le président. Mmh. Alors, Weizmann est une personnalité très connue en Angleterre, mais pas en tant que dirigeant sioniste. Mmh. Il est connu surtout comme professeur de chimie. Mmh. Et donc, c'est grâce à sa position en tant que chimiste qui va rendre d'énormes services aux armées britanniques, notamment, par des inventions d'armes et de munitions et de certaines composants chimiques qui vont permettre le développement de certains types d'explosifs, il va avoir l'oreille du mouvement, l'oreille du gouvernement britannique. D'accord. Pour le mouvement sioniste.
Et donc, au sortir de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe exactement pour les sionistes ?
Alors, on le verra quand on parlera de la déclaration Balfour, puisqu'on va consacrer une émission à la déclaration Balfour. Mais disons que les choses vont radicalement changer sur le terrain. Et donc, la plupart des Juifs qui ont été expulsés de la terre d'Israël au moment de la Première Guerre mondiale par le pouvoir ottoman, vont revenir immédiatement et reprendre, leur place et également leur travail sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que les Ottomans, d'un côté, ont arrêté, je l'ai dit, ont torturé, ont également neutralisé ce fameux réseau d'espionnage. Et donc, ça les a confortés dans l'idée que le mouvement sioniste était, au fond, l'ennemi. Mmh. Et donc, ça va permettre aussi à l'Empire ottoman de faciliter, d'une certaine façon, l'opposition au sionisme au sein de la population arabe. Et donc, d'encourager cette opposition au mouvement sioniste dans la population arabe.
D'accord. Nous allons refaire une petite pause musicale.
It's עתידה לשקר אדמה את כל כאביי את לילותיי את ימיי עולם ולא אורך מודה אדמה ואנו עצי השדה אדמה
Adama.
La terre.
Ah, la terre, absolument.
La terre, et c'était la chanteuse Ofra Haza, regrettée Ofra Haza, qui est décédée il y a quelques années, et qui, évidemment, c'est une chanson sur l'amour de la terre. Voilà, c'est cette terre qui nous est chère, et on parle de ça beaucoup dans cette émission.
La fin de la Première Guerre mondiale, est-ce qu'elle marque la fin d'une époque pour le sionisme ?
Déjà, je pense qu'elle marque la fin d'une époque pour l'histoire en général, pour l'histoire de l'Europe et pour l'histoire du... Je dirais que c'est la fin du 19e siècle, c'est le début du 20e siècle, avec toutes les horreurs et toutes les guerres qui vont se suivre, les génocides. Et donc, on a vraiment le début d'une ère qui ça a changé. Le monde a changé de toute façon très, très, très grave. D'une certaine façon, Herzl et ses successeurs étaient des héritiers du 19e siècle. De ce 19e siècle, de ce qu'on a appelé la belle époque, les années 1900, finalement, une époque assez heureuse. Herzl, on l'a dit, c'était un peu, avant d'être un sioniste, c'était un bon vivant, c'était un journaliste, c'était quelqu'un qui représentait, au fond, la culture européenne, le Mitteleuropa, comme on disait, et cette époque est révolue. Mmh. Et donc, aussi bien le mouvement sioniste change, on en reparlera de la déclaration Balfour comme le tournant peut-être de l'histoire sioniste, l'histoire du mouvement sioniste. Mais disons que si on devait un peu résumer ou tirer des conclusions sur cette première partie du mouvement sioniste, disons de la création du mouvement, de la rédaction du livre d'Herzl, l'État des Juifs, jusqu'à la Première Guerre mondiale et la déclaration Balfour, on peut dire que c'est une première page d'histoire qui a été écrite par des gens qui, au fond, étaient des utopistes, qui ne savaient pas très bien ce dont ils rêvaient. C'était un rêve. Herzl, sa phrase, c'était « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. » Donc Herzl, c'était un visionnaire, un rêveur, un prophète, quelqu'un qui était peut-être au-dessus de l'histoire, d'une certaine façon, qui était à la fois le pur produit de son époque, mais aussi qui est peut-être au-dessus de l'histoire. Mmh. Et curieusement, le mythe Herzl est resté en Israël, je dirais, avec son côté à la fois idéal, mais aussi son côté mystérieux. On n'a pas voulu trop savoir qui était Herzl avant le sionisme. Je dirais que le patrimoine de Herzl, évidemment, tout le monde part de Herzl, mais on dit, au fond, c'est le visionnaire. Mm-hmm. C'est celui qui a annoncé les choses. Mais on ne lit pas trop son journal, on ne s'intéresse pas trop à sa pensée politique. Mm-hmm. On le voit uniquement comme quelqu'un qui a lancé l'idée, je dirais, comme le visionnaire. Ses successeurs ont été des travailleurs, des gens qui ont mis en place une institution qui, il faut le savoir, dans le peuple juif était très minoritaire. Il y avait très peu de sionistes. Je pense que on pouvait, je ne vais pas les compter sur les doigts d'une main, mais en tout cas, ça représentait moins de 10% des juifs. Il y avait très peu de juifs dans le mouvement sioniste, des membres qui payaient leur droit d'adhésion, le fameux shekel, droit d'adhésion au mouvement sioniste, étaient très peu nombreux. C'était un mouvement très minoritaire, qui était aussi en partie boycotté par les communautés religieuses, et donc qui était combattu également par les communistes, par le Bund, donc qui était vraiment... c'était pas un mouvement qui était accepté par l'ensemble non seulement du monde non-juif, mais aussi au sein du monde juif. Mmh. Après la Première Guerre mondiale, après la déclaration Balfour, les choses vont évidemment changer. Peut-être pas tout de suite radicalement, mais on comprend que là, l'histoire s'est mise en marche. Il y a un sens de l'histoire qui a été pris jusqu'à la Première Guerre mondiale. Si on avait interrogé, si on avait fait, disons, un sondage au sein du peuple juif, les gens auraient dit, oui, bon, c'est quelques illuminés, quelques fous qui sont allés casser des cailloux. C'est comme ça que c'est décrit, d'ailleurs. Souvent, il y a des témoignages de gens qui visitent la terre d'Israël, y compris des non-juifs. Pierre Loti, par exemple, qui dit il y a quelques juifs qui sont là en train de casser des cailloux. Ça a l'air de quelque chose de tout à fait utopique, surréaliste, et pas du tout... on n'imagine pas ce qui va se passer. L'histoire, à partir de la Première Guerre mondiale, je dirais, non seulement s'accélère, mais elle commence à aller dans un certain sens, même du point de vue sioniste. Mmh. Pour moi, il y a, à partir de la déclaration Balfour, une espèce d'inéluctabilité du sionisme. Le sionisme devient quelque chose d'inéluctable, qui sera malheureusement peut-être retardé dans sa réalisation par l'antisémitisme et évidemment par la Shoah. Mmh. Mais le mouvement sioniste est quelque part en marche dans l'histoire. Il s'inscrit dans dans un mouvement historique qui va se réaliser. Mmh. Alors effectivement, personne ne peut dire en 1914, ou même en 1917, ou même en 1918, quand l'État d'Israël sera rétabli. Personne n'a d'idée de ce qui va se passer. Mais on comprend qu'il y a là quelque chose qui est durable, et qu'il ne s'agit pas simplement d'une bande de fous ou d'illuminés qui sont venus essayer d'aller casser des cailloux et créer une espèce de petit village en terre d'Israël. Ce n'est plus une utopie, ça devient une réalité politique.
On en parlera plus tard, dans une autre émission, mais est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement la déclaration de Balfour ?
Ah, les déclarations Balfour, c'est un engagement qui a été pris par le gouvernement britannique envers le mouvement sioniste d'établir, dans le cadre du mandat britannique qui serait confié à la puissance anglaise, de créer un foyer pour l'établissement d'un État juif à long terme. Alors, évidemment, la déclaration Balfour est une déclaration un peu floue, on y reviendra, c'est un peu vague. C'est un échange de lettres entre Lord Balfour et Lord Rothschild, mais il s'agit d'un engagement. Engagement qui sera pris en compte ensuite dans toutes les conférences internationales après la guerre sur, justement, la répartition des terrains ou des terres au Proche-Orient. Donc ça servira de base, mais il y avait évidemment d'autres accords qui avaient été signés entre les puissances et qui s'opposaient à la déclaration Balfour. Donc on entre dans un jeu géopolitique d'influence. Cela dit, la déclaration Balfour, pour le mouvement sioniste, a constitué peut-être le premier document d'une reconnaissance internationale, c'est-à-dire une reconnaissance par une grande puissance du droit du peuple juif sur la terre d'Israël. Et ça, c'est, je veux dire, une révolution. Ça, c'est un changement radical de l'histoire. C'est la première fois, à l'époque moderne, qu'une grande puissance dit, au fond, les Juifs vont se réinstaller, vont rétablir, à un moment ou à un autre, leur souveraineté sur la terre d'Israël. Ça, c'est extrêmement important sur le plan historique. Ça change l'histoire. C'est une petite lettre de quelques lignes, mais qui va changer le sens de l'histoire et qui va donner, je dirais, du sens, du contenu au sionisme. Ça n'est plus un rêve, ça n'est plus voilà, quelque chose qui est de l'ordre du fantasme ou de l'imaginaire. On entre dans la réalité historique et aussi du jeu des grandes puissances. Et on sait que les grandes puissances vont avoir un rôle extrêmement important dans le développement du mouvement sioniste jusqu'à la création de l'État d'Israël et même peut-être après.
Merci beaucoup, Michael. Nous allons vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Stéphanie Soufir. C'était Michael Barzvi et à très bientôt.
הרצל וכל האדונים הנכבדים בבאזל יסדו את מדינת היהודים וולפסון ונורדו ואוסישקין התוסס ומוצקין וכל הציונים של הקונגרס
וולפסון הביא למדינה את הכספים נורדו נתן את הפרסום והכבוד אוסישקין נתן את המרץ של הדור וביאליק נתן
את דל הציפור
רק הרצל הלך שם דבר וכואב כי הרצל נתן למדינה את הלב
אוסישקין נתן את המרץ של הדור וביאליק נתן את דל הציפור רק הרצל הלך שם דבר וכואב כי הרצל נתן למדינה את הלב
מזכיר אל השר, מן המיניסטר אל הגרף האמין כתינוק בכל מה שהוא בדע
ואמר אם תרצו אשתם זו אגדה
נסע לסיני לגליל וליהודה בדק את הקרקע ואת כלי העבודה חצה את הים ועל פרד הוא דהר ביקווה ישראל הוא פגש את הקיסר ואז לפני וילהם הוא חש פתאום כאב כי שוב היה צריך לפתוח את הלב
חצה את הים ועל פרד הוא דהר וביקווה ישראל הוא פגש את הקיסר ואז לפני וילהם הוא חש פתאום כאב כי שוב היה צריך לפתוח את הלב
פיורי וברוטשילד הוא נזף והשקיע בקונגרסים את כל חסכונותיו בבית הוא הניח אישה וילדים שחשו על גבם את צרות היהודים
לכלכו את ידם ולחש עצמו קדם בשישים שילם ונפגש עם הסודן
כי חרב תחב דולחמיד השני היה מתמצא
בעניין הציוני
הוא היה קצת בנימין והיה קצת זאב אך אפילו לסולטן הוא הציע את הלב
כי אחרת אחד דולחמיד השני היה מתמצא בעניין הציוני הוא היה קצת בנימין והיה קצת זאב אך אפילו לסולטן הוא הציע את הלב
שראו שישנה כבר התחלה הוא נדרש לשלם את מחיר התהילה אחד דרך